Je vous présente à tous le peintre François Gérard. Comme vous le voyez, il s'agit d'un jeune homme chic, à la mode. En effet, c'est un talent prometteur. Il s'est fait connaître au salon de 1795 et 1798. Il est d'ailleurs représenté ici en 1798, soit juste avant que Napoléon devienne premier consul. Le peintre a alors une trentaine d'années. Sous Napoléon, Gérard est surtout un portraitiste. Et il apparaît avant tout comme le peintre de ces dames. J'ai pensé que vous apprécieriez un peu de féminité au milieu de tant de démonstrations de force. Pour apprécier, rien de mieux que de prendre son temps. Je pense que c'est l'intérêt d'une journée comme celle-ci. On se concentre sur une œuvre, on a le temps de l'apprécier. Pour ce faire, je vous propose de procéder en deux temps. Tout d'abord, observer la peinture. Et ensuite, on essaiera de la remettre dans son contexte et d'en tirer quelques conclusions. La richesse de cette toile m'a obligée à faire des choix, ceux notamment de n'indiquer les éléments biographiques de Madame Récamier que dans la mesure où ils nous intéressent pour comprendre cette toile. Et également, je ne pourrais pas faire de comparaison avec d'autres portraits de Madame Récamier, ce qui aurait été aussi un angle d'approche intéressant. Nous détenons une description du modèle, pas par n'importe qui, par Chateaubriand. Sous le prétexte de présenter Léonie, l'héroïne de l'un de ses romans, c'est Juliette qui fut son amante et sa muse, dont il parle en réalité en ces termes. Il la décrit grande, charmante et dite appréciée. Cette ligne ovale que l'on ne voit que dans les têtes de Raphaël et que, jusqu'ici, on aurait pu croire idéale. Il y a une harmonie parfaite entre tous les traits de Léonie. Ils expriment la douceur, la finesse et la beauté. Ces descriptions correspondent-elles à ce que nous voyons ? Ce qui frappe tout d'abord, je pense, dans cette composition, c'est son unité. Elle est faite de telle sorte qu'on arrive à saisir l'ensemble des éléments d'un seul regard. Une unité de composition, tout d'abord. Notez que, tout comme Napoléon tout à l'heure n'était pas centré dans la bataille des Lots, légèrement décalé, ici aussi Juliette est légèrement décalée vers la gauche. Mais en fait, sa tête est bien au centre d'une composition en S. Ce S qui part du bas de l'estrade, remonte le long du corps en courbe, pour finir en haut de l'arche. En quelque sorte, on pourrait dire que Juliette est lovée dans son environnement. Le résultat est une composition qui apparaît harmonieuse et une certaine douceur de l'ensemble. Cette impression est renforcée par l'unité de couleur que vous pouvez apprécier dans cette vue d'ensemble, mais que malheureusement sera un petit peu gâchée par la suite sur les photos de détail, car on n'arrive pas toujours à la luminosité qu'on veut dans les musées qu'on prend en photo. Cette couleur est de dominante rousse. Certains cheveux bruns se teintent ainsi de rouge dans les détails. Si l'on se concentre sur le visage, nous sommes frappés par cette figure de porcelaine. C'est certainement la partie la plus finement réalisée du tableau. La composition avec la tête de Psyché, allégorie grecque de l'âme, dans le tableau de Psyché enlacé par l'amour, peint par Gérard en 1798, cette comparaison est flagrante. Juliette, c'est Psyché. Ou plus exactement, comme dit alors un quatrain populaire au sujet de Juliette, de la belle Juliette, c'est Psyché avant qu'elle ait rencontré l'amour. Une déesse, littéralement mise sur un piédestal par l'artiste. Ce piédestal, c'est ce décrochage de l'estrade qui fait que Juliette, quoi qu'il arrive, se trouvera toujours située légèrement au-dessus du spectateur, telle une déesse mise à distance. Gérard se montre proche ici du courant pictural alors prisé, appelé primitivisme, qui prône notamment une recherche de la pureté des formes en référence à l'art antique. Karine Huguenot nous a parlé ce matin des recherches de Ingres, sur cette pureté de forme, ce retour à l'antique, qui peuvent être mis en parallèle avec ce que fait ici Gérard. Notez ce détail révélateur de l'antiquomanie, ce goût, cette folie de l'antique à l'époque, cette flèche amoureuse glissée dans la chevelure de Juliette, donc cette flèche même que Cupidon envoie pour toucher les cœurs. Une autre comparaison est possible avec un autre tableau de Gérard, la Sainte Thérèse. Nous retrouvons Chateaubriand, puisqu'il s'agit d'une commande de 1823, faite par Chateaubriand pour une œuvre charitable, par l'intermédiaire, devinez de qui ? De Madame Récamier, bien sûr. Ses œuvres sont proches, notamment dans la représentation du bas du visage, plus spécialement des lèvres charnues, des bouches qui dégagent une sensualité semblable. L'importance dans ce tableau accordée à la chair n'est pas des moindres, plus particulièrement à ce buste dénudé. Notez ici l'adresse du peintre dans sa façon de souligner le dessous des seins par une peinture blanche plus épaisse. La gamme colorée sourde fait d'autant plus ressortir ce corps qui rayonne, ce corps blanc, cette peau laiteuse qui absorbe également la lumière. Finalement, tout dans ce tableau est dans la lumière. Pourtant, son origine est difficile à situer. Elle est diffuse et en même temps, elle est orientée sur le visage et le buste. De même que l'origine de la lumière est mystérieuse, de même, on peut se demander, mais où se trouve-t-elle? Est-elle dedans? Est-elle dehors? Cet espace est étonnant parce qu'il est clos sans l'être, il est un petit peu indéfinissable. Alors, il y a bien sûr un aspect naturel, avec cette présence de la nature au fond du tableau. Un paysage qui, je pense, vous fera plutôt penser à l'Italie. Pourtant, nous sommes à Paris. Notez qu'il n'y a pas de ligne de fuite. Même le ciel, que l'on entreaperçoit, est obturé par les nuages et la végétation. De plus, l'espace au fond est clos par ce drapé, qui, combiné au décrochage du premier plan, fait qu'on a plutôt l'impression d'assister à une mise en scène théâtrale. Drapé, estrade, tout est là pour nous faire croire qu'on est sur un théâtre. Des colonnes viennent encore clore cet espace qui a déjà été bien obturé, à droite et à gauche, par trois lignes droites fortes. Juliette est posée et encadrée comme un objet d'art. Juliette pose, en effet. Notez ses mains très soignées, qui tombent tout en étant relâchées, ô combien gracieusement, en même temps ne le sont pas, comme d'ailleurs le reste du corps, qui est posé, mais qui reste droit. On pourrait parler au sujet de ce tableau d'une sensualité retenue. Le résultat est bien différent de la perspective et de l'élan franc d'une Madame Tallienne, autre femme célèbre de cette époque, ici également peinte par Gérard. Il s'agit de deux visions, deux idées assez différentes de la femme, car Gérard développe une certaine idée de Madame Récamier, une approche un peu abstraite du modèle. Lui qui fut tellement réputé pour la ressemblance avec ses modèles, ici est pris à défaut par les contemporains, qui disent que finalement on ne dirait pas tant que ça Madame Récamier. Chateaubriand, nous le retrouvons une fois encore dans les Mémoires d'Outre-Tombe, écrit « Le portrait est le chef-d'œuvre de Gérard, mais il ne me plaît pas, parce que j'y reconnais les traits sans y reconnaître l'expression du modèle. » Juliette elle-même remarque en 1812 « Vous lui avez donné cette expression douce et rêveuse qui me plaît plus qu'elle ne me ressemble. » Ce manque de ressemblance est peut-être dû au fait que le peintre effectue alors des recherches stylistiques qui vont plutôt le pousser à s'éloigner du réalisme pour aboutir à une certaine abstraction. Ainsi, à la rondeur de l'arche, de l'estrade, répond un corps que vous noterez ne pas avoir véritablement de forme. Si vous regardez le coude, il est arrondi. Quant au genou, il disparaît sous le drapé, on n'en voit plus la forme. C'est assez typique de Gérard, mais ici poussé un peu plus loin encore. Une partie est particulièrement frappante à cet égard. C'est la façon dont le corps épouse les coussins du fauteuil. Ce bras, particulièrement, qui rentre dans le fauteuil, semble happé. Nous avons un vrai tour d'illusionniste. Le rendu des ombres est intéressant également. La peau n'est en aucun cas blanche. Elle est bleue, elle est violette, elle est verte. Elle est pleine de couleurs. Si l'on osait la comparaison, on dirait que c'est une peinture qu'on l'attendrait plutôt d'un artiste de la deuxième moitié du siècle comme Renoir. Ces mêmes effets de reflets et de multiples couleurs se retrouvent dans les ombres sous la chaise, une partie très moderne de la peinture, tout comme cet étonnant panier à linge, très négligé, apparemment négligé, qui témoigne d'une grande liberté picturale. Bien sûr, David, la comparaison était inévitable. On peut établir une comparaison entre le frottis de la colonne chez Gérard avec la touche du tableau de David. David fut le maître de Gérard, avec cette génération brillante d'élèves, comme Gros dont nous venons juste de parler, et Giraudet, qui a eu droit à son exposition au Louvre en 2005. Autre point approchant entre Gérard et David, ce tabouret de pied, qui sont assez ressemblants. Quand on a cité ces deux éléments, ça s'arrête là. Je ne vois aucun autre point de comparaison entre le tableau de Gérard et le tableau de David. Autrement dit, l'élève s'éloigne du maître. Pourtant, ces deux œuvres étaient issues de la même commande, puisque Madame Récamier s'adresse d'abord à David. En septembre 1800, David s'excuse du retard qu'il a pris, se montre insatisfait du résultat. Il attribue cet échec au mauvais éclairage du local dans lequel il peint. Il écrit à Madame Récamier « Sous peu, belle et bonne dame, vous entendrez encore parler de moi. Nous nous y remettrons pour ne plus le quitter. Et si j'ai eu des torts apparents vis-à-vis de vous, mon pinceau, je l'espère, les effacera. » En fait, le tableau restera inachevé et la commande reviendra finalement à Gérard. Pour situer la peinture dans son contexte, intéressons-nous tout d'abord à la genèse de l'œuvre. Elle a lieu entre 1801 et 1805. La toile finale comporte deux indices sur lesquels j'attire votre attention. Tout d'abord, vous voyez ce pied, la façon dont le drapé vient le recouvrir, hein, et l'importance accordée à la transparence. On voit la peau sous le drapé. Deuxième indice, la différence de traitement entre la figure, qui est traitée de manière assez enlevée, et les éléments décoratifs, comme ce pied du tabouret que l'on voit apparaître, qui est très graphique, très travaillé. Comment expliquer cette différence de traitement ? L'observation de deux études préparatoires nous apporte quelques éléments de réponse. Vous noterez que dès le début, la transparence des drapés est un élément très important pour Girard. Regardez comment le corps apparaît sous les drapés dans ses études dessinées. Dès le début aussi, Girard sait comment il placera sa figure. Bien sûr, ici, elle est encore debout. Mais la composition, le schéma en S, est déjà bien sous-jacent. C'est cette maîtrise originelle concernant sa figure qui lui permettra d'être particulièrement à l'aise quand il devra la peindre sur sa toile finale. Le dessin préparatoire dessiné est un travail académique. Nous l'avons vu dans le cadre du Sacre de Napoléon, où David nous avait montré des études préparatoires dessinées. On dessine avant de passer à la couleur. L'idée de départ est ici d'ailleurs académique et très différente de ce qu'elle sera au final. Nous avons finalement quoi ? Une femme au bain. L'origine du tableau de Madame Récamier est une femme au bain. Une référence donc à la peinture classique. C'est dans un deuxième temps seulement, nous le voyons dans ses études, que Girard abandonne l'idée classique originelle et montre la volonté d'intégrer des éléments modernes, notamment le mobilier du célèbre ébéniste de Napoléon Jacob. Cette réflexion de temps explique la différence de traitement entre la figure et certains éléments décoratifs. Le petit canapé en acajou apparaît, il est sculpté sans bronze et on peut le supposer de Jacob Frère. Finalement, ce n'est que dans le tableau, à cette étape de la Genèse, que nous voyons le fameux panier à linge. Autrement dit, à partir d'une idée classique, Girard arrive à une composition plutôt moderne, avec des éléments modernes, mais il rajoute le panier à linge qui nous ramène à cette première idée de femme au bain. C'est au fond une façon d'adapter une idée classique au monde moderne. Car Juliette est une beauté classique, mais elle est aussi une femme moderne, une femme à la mode, et Girard, en quelque sorte, en a fait les frais. Nous connaissons une anecdote rapportant que Girard, impatienté par les visites des multiples admirateurs de Juliette, pendant les séances de pause, aurait menacé de crever son tableau. Bon, au-delà de l'anecdote, dont on ne peut pas vérifier la véracité, ça met en valeur la difficulté pour un peintre de peindre ce qui n'est autre qu'une idole. L'achèvement de ce portrait est en effet un événement mondain annoncé dans le journal de Paris, le 31 mai 1805. Je cite, « Les amateurs des beaux portraits et de belles femmes s'empressent d'aller voir dans l'atelier de M. Girard le portrait en pied de Mme Récamier. » En effet, au moment où Girard la peint, Juliette est au sommet de sa richesse, de sa gloire, et l'intérieur de son hôtel particulier en est le reflet. Voici la chambre de Juliette dans cet hôtel particulier. C'est une publication de Kraft et Ransonnette dans leur plan coupe-élévation des plus belles maisons et des hôtels construits à Paris. Cet hôtel est situé dans le très chic quartier de la Chaussée-d'Antin, où se trouvent les demeures de la haute bourgeoisie, des financiers, des nouveaux riches. L'hôtel a été acheté par les Récamiers en 1798. Il commande la décoration à Berthaud qui fut aussi l'architecte de Napoléon pour Compiègne. Et on sait que Percier, l'architecte de Napoléon, a participé à cette décoration. Cet hôtel particulier va être considéré comme un bijou et un modèle de décor à la mode. Revenons très succinctement sur quelques éléments de la vie de Juliette qui peuvent peut-être nous aider à comprendre la suite de l'histoire de cette toile. Juliette, de son nom de jeune fille Bernard, est mariée à l'âge de 16 ans à un homme de 42 ans. C'est un mariage blanc avec un ami de la famille et non pas un mariage d'amour. C'est une façon en pleine terreur, le mariage a lieu en 1793, une façon pour M. Récamier de placer ses biens menacés sur la tête de Juliette. Après une période d'opulence, à partir de 1806, les circonstances vont changer pour Juliette. Son mari fait banqueroute et sa mère tombe malade. C'est dans ce contexte difficile pour la jeune femme qu'intervient la fameuse rencontre avec Auguste de Prusse. Dans ce portrait, le prince Auguste de Prusse est représenté par Kruger dans son palais à Berlin, posant devant le portrait de Juliette Récamier. Juliette et Auguste s'étaient rencontrés en 1807, alors qu'Auguste était prisonnier de guerre sur parole des Français. En Suisse, à Copé, chez Madame de Staël, ils échangent des promesses de mariage solennelles. Juliette va demander le divorce. Une difficulté se présente, on ne saura jamais laquelle. Juliette rompt sa promesse de mariage avec Auguste, sans lui donner d'explication véritable. Les lettres d'Auguste de Prusse à Juliette sont conservées. Elles sont soigneusement numérotées. Alors je vous l'accorde, ça casse un peu le romantisme de l'histoire. Mais quand il a fallu que j'ai consulté à la Bibliothèque nationale, ça m'a beaucoup aidée. Le portrait a souvent été présenté comme un cadeau de rupture entre Juliette et Auguste. En fait, à la lecture des lettres, ça paraît un peu plus complexe. Finalement, ce cadeau n'est autre qu'un échange de présents comme la coutume le veut avant un mariage. On envoie le portrait de la bien-aimée, du bien-aimé. D'ailleurs, le tableau d'Auguste est parti. Il mettra plusieurs mois à arriver à Paris. Et on se rend compte que de son côté, Auguste attend le portrait de Juliette. Tout comme, en fin de compte, il attend la réponse de Juliette pour ce fameux mariage. Il obtiendra plus de 2 mois avant d'avoir une réponse définitive. Quand il finit par le recevoir, ce tableau, il écrit « Pendant des heures entières, je regarde ce portrait enchanteur et je rêve un bonheur qui doit surpasser tout ce que l'imagination peut offrir de plus délicieux. » Le tableau de Gérard est exposé plus de 20 ans à Berlin, dont un temps à l'Académie. À la mort d'Auguste de Prusse en 1843, le portrait est restitué à Madame Récamier. Germaine de Staël est à l'origine de l'amour entre le prince et Juliette. Elle est ici portraiturée par Gérard, qu'elle connaît bien et apprécie, en 1816. Cette même année, Juliette offre à Auguste de Prusse une copie de ce portrait en souvenir de leur amour. Mais aussi parce que Madame de Staël est devenue une amie chère aux deux amants. Peu à peu, Juliette va être considérée par le régime impérial comme une opposante. En raison de sa proximité avec la tant détestée Madame de Staël, mais pas seulement, revenons un petit peu en arrière. Assez tôt, des liens unissent Juliette avec la famille Bonaparte. Et tout avait plutôt bien commencé. Nous avons noté 2 rencontres entre Juliette et Napoléon en 1797. Une fête a lieu en l'honneur de Napoléon, de retour d'Italie, ils se croisent. En 1800, ils ont l'occasion d'échanger quelques mots lors d'un dîner-concert en l'honneur du premier consul. Et puis, le frère de Napoléon, Lucien Bonaparte, est amoureux de Juliette pendant 1 an. Entre 1799 et 1800. Il lui écrit des lettres enflammées qu'il signe Roméo. Juliette n'est pas séduite, ce qui fera dire à Lucien « Vous savez seul donner des charmes à l'indifférence. » Le germe de la discorde entre Juliette et Napoléon vient peut-être de l'arrestation de M. Bernard, le père de Juliette, en 1802. M. Bernard a fait des prêts à un journal royaliste, il sera emprisonné au Temple. Juliette va solliciter l'aide de Bernadotte qui lui accorde et le fait libérer. L'allemand Reichardt, en visite à Paris, nous apprend que le 4 février 1803, les assemblées hebdomadaires de Madame Récamier, je cite « mal vues en haut lieu », sont suspendues sur un avis officieux et poursuit non sans humour. C'est dommage que Peter soit parti parce que ça va parler des Anglais. Madame Récamier ne doit pas être fâchée d'avoir un prétexte d'interrompre des assemblées de plus en plus nombreuses. Dans ces derniers temps, les Anglais avaient organisé une véritable invasion chez elle. Lorsqu'en 1805, Napoléon propose à Récamier de devenir dame du palais, Juliette refuse. Il s'agit bien sûr d'un casus belli supplémentaire. Conséquence directe ou pas de ces événements, Juliette est exilée hors de Paris par Napoléon. Dans un courrier de 1811, elle entretient Gérard d'une lettre de Lefort qui veut que la gravure d'après son portrait figure à l'exposition de peinture du musée Napoléon. Elle a peur d'une publicité malencontreuse autour de sa personne alors qu'elle est à ce moment-là en exil. Elle écrit « Les circonstances forcées qui m'éloignent de Paris sont de nature à ce que je ne puisse consentir à la continuation de la gravure que lorsque j'y serai rentrée. » Elle lui demandera un an après « Savez-vous qu'il y a plus de 6 mois que je suis à Châlons, dont, comme vous le dites, le nom représente l'ennui ?» Et oui, pour une Parisienne comme Juliette, l'exil à Châlons devait être très difficile. Gérard fréquente donc des opposants à l'Empire. Car à travers l'histoire de notre tableau se pose aussi la question de la formation des élites sous Napoléon et de la façon dont Napoléon va essayer, réussir ou ne pas réussir, à se les rallier. L'attachement des membres de ce groupe d'opposants de Copé perdure au-delà de la période impériale, ce qui assure, aussi soyons pragmatiques, une clientèle à Gérard. Le tableau de Corinne au Cap Misaine, peint par Gérard en hommage à Madame de Staël, morte en 1817, l'est aussi en hommage à son livre « Corinne ou l'Italie » qui a été écrit en 1807. Il s'agit d'une commande d'Auguste à David. Auguste va juger que le délai demandé par David et le prix aussi sont beaucoup trop longs et trop élevés. Il va donc lui préférer Gérard. Et c'est une fois de plus, comme l'histoire se répète, Récamier qui sert d'intermédiaire. Décidément, les commandes en lien avec Madame Récamier sont une occasion pour Gérard de se mettre en concurrence avec son maître. Auguste écrit à Gérard en 1818 en parlant de Juliette « J'accepte toutes les décisions dont elle conviendra avec vous à cet égard, comme les ayant faites moi-même. » Le prince offrira finalement le tableau à Juliette en 1821. Les liens entre Récamier et Gérard perdurent et à plusieurs occasions, il la croque au crayon. Jusqu'à la mort du modèle, en 1848, elle décède du choléra. Ces liens peuvent peut-être aussi s'expliquer par le fait qu'Amélie Sivogt, la nièce et la fille adoptive de Juliette, deviendra Madame Lenormand, Madame Lenormand qui n'est autre que la femme du premier biographe de Gérard. Pour conclure, jetons donc quelques idées sur le papier. Le portrait de Juliette pourrait être vu comme un symbole, le symbole d'une société décomplexée face à l'argent, face à la mode. Au travers de l'histoire de ce tableau, on assiste à la formation d'une élite qui brillera, bon, parfois par l'opposition, par son opposition à Napoléon. Une élite sous l'Empire qui perdurera bien encore après. L'amitié avec la mondaine Juliette ouvre des portes à Gérard. Nous avons plusieurs fois constaté son rôle d'intermédiaire et lui apporte une clientèle de noms illustres. Cette femme est présentée ici comme un bijou dans un écrin. C'est assez caractéristique de Gérard et plus largement de cette génération d'artistes issus de l'atelier de David. C'est une peinture d'idées, imprégnée de culture classique et de référence à l'Antiquité. Mais aussi avec, dans cette génération d'artistes, un véritable attrait pour la modernité des sujets et des styles. Et finalement, qui se prêtait mieux à cette ambiguïté entre classicisme et modernité que la virginale Juliette, cette beauté classique et pure qui, comme la déesse Psyché, n'avait pas encore connu l'amour, mais aussi une femme moderne à la pointe de la mode. Lorsque Gérard rivalise avec David, c'est finalement pour mieux se détacher du maître. Et nous avons ici une rencontre propice entre une époque, un sujet, les recherches artistiques d'un peintre, pour créer une alchimie qui, je pense, est réussie, avec des partis pris très modernes qui annoncent le développement de la peinture au XIXe siècle. J'espère que cette toile aura su vous séduire, par sa beauté, mais aussi par l'histoire qu'elle nous raconte, humaine et émouvante.